Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Est-ce une mauvaise idée d'être jeune en France aujourd'hui ? Nuit debout semble le montrer, à moins que cette jeunesse ne représente qu'elle-même. Certains disent même que la France mériterait une autre jeunesse que Nuit debout. Pour en parler, des opinions diverses dans ce studio. Tout d'abord celle de Ludivine Bantini, jeune historienne, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Rouen, favorable à Nuit debout. Brice Couturier, notre camarade des matins, qui a pu tout à l'heure dire dans quelle mesure ce mouvement suscitait chez lui du scepticisme. Et puis Hervé Lebras, bonjour. Vous êtes historien, démographe, directeur d'études à l'EHESS. Vous avez notamment publié Anatomie sociale de la France. Vous êtes un très bon connaisseur de la carte électorale française. Et justement, il y a peu, on disait, c'était en 2002 précisément, la jeunesse emmerde le Front National, c'était un slogan de campagne. Aujourd'hui, d'après les derniers sondages, d'après notamment le sondage publié hier par Le Monde, eh bien la jeunesse semble voter Front National comme les plus âgés. Est-ce une surprise pour vous, Hervé Lebras ?
Non, dans la mesure où déjà les sondages des deux dernières années à propos des élections départementales ou régionales donnaient à peu près la même chose. C'est la jeunesse, disons, alors la jeunesse, il faut bien voir quelle jeunesse, celle qui est entre 18 et 25 ans, était légèrement en dessous de la moyenne. La partie 25-55 ans, c'est pas simplement la jeunesse, est au-dessus de la moyenne. Et après 55 ans, le vote du Front National devient de plus en plus faible. Donc là, la jeunesse se met au fond un peu près, mais un petit peu en dessous du niveau de l'ensemble de la population active. Et c'est assez normal parce que on constate très souvent que les opinions des plus jeunes, donc ceux qui sont avant 25 ans, reflètent celles de leurs parents. On a par exemple cela pour la pratique religieuse.
Alors il y a un point là aussi où les plus jeunes votent finalement comme les plus âgés, c'est la désaffection vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis du président de la République, François Hollande.
Oui, là c'est plus fort que dans les sondages sur l'ensemble des Français. J'ai été frappé par deux choses quand on regarde le sondage de l'IFOP. D'abord, il y a une petite présence de l'extrême-gauche. Elle atteint dans les 3-4%, alors qu'elle est maintenant à un étiquetage de 1,5%. Et puis globalement, si on prend tous les candidats de gauche dans les configurations électorales qui sont proposées, on est autour de 40%, ce qui est élevé. Puisque on est plutôt, l'ensemble des candidats de gauche dans les élections précédentes tourne autour de 35%. Donc il y a une légère tendance à gauche qui est marquée d'ailleurs par le fait que dans toutes les combinaisons, Mélenchon l'emporte sur Hollande ou même sur Valls dans toutes les combinaisons.
La jeunesse, est-ce que pour vous, c'est un terme qui désigne effectivement un bloc homogène ou bien s'agit-il tout simplement d'une commodité de langage, Hervé Lebras ?
Oh, comme démographe, je dirais que c'est une commodité de langage. Très largement, la condition des jeunes est très différente. Elle devient de plus en plus différente. Et là, je pense qu'il y a un problème grave pour la France, de plus en plus différente, parce que de plus en plus, les jeunes dépendent de leur famille, en fait. Et d'ailleurs, on le voit, ils se révoltent de moins en moins contre leur famille. Donc, éventuellement, dans un sondage, ils se révolteront un peu contre le gouvernement, mais ils sont très attachés à leur famille parce que aussi les transferts intergénérationnels sont extrêmement importants. La sécurité familiale est en train en France de remplacer en partie la sécurité sociale. Et c'est assez injuste parce que tout le monde n'a pas la même famille. D'une certaine manière, l'État-providence a été établi justement pour rétablir une égalité entre les individus qui, à la naissance, étaient fort différents du fait de leur famille.
Donc c'est vraiment une mauvaise idée d'être jeune en France aujourd'hui.
C'est dangereux d'être jeune. C'est un parcours un peu périlleux, mais en même temps, il s'est passé une mutation énorme dans la société française, d'ailleurs dans la plupart des sociétés occidentales. On cessait d'être jeune il y a une trentaine d'années, vers 23, 24, 25 ans, parce que on se mariait ou on se mettait en couple, on avait des enfants. Une femme avait son premier enfant en 1975 à 23 ans et demi. Maintenant, tout a été décalé d'à peu près 5 ans. Une femme a son premier enfant vers 28 ans et demi. Donc il y a une période qui s'étend maintenant qui est, on l'appelle la jeunesse. Je ne sais pas s'il ne faudra pas un jour lui trouver un autre nom. À un moment donné, on parlait de post-adolescence. Mais là, c'est vraiment une post-adolescence qui dure. Et il y a des particularités très fortes de cette jeunesse, notamment, elle est massivement concentrée dans les très grandes villes. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Ça veut dire qu'on fabrique une génération qui aura, au fond, été socialisée essentiellement dans les grandes villes. Pour donner des chiffres, les 20-24 ans représentent pratiquement 15% de la population de Rennes ou de Montpellier et 2% de celle de certains cantons de la Creuse.
Ça veut dire qu'il y a aussi des inégalités territoriales qui vont en quelque sorte redoubler les inégalités sociales et les inégalités en termes de classe d'âge ?
Il y a des inégalités territoriales, alors là, cette fois-ci à une échelle plus large, mettons par exemple les jeunes du nord, de la région nord-est, à part l'Alsace ou bien de la région méditerranéenne, surtout du Languedoc, sont beaucoup plus souvent sans diplôme que les jeunes de l'Ouest ou que les jeunes de la région lyonnaise. C'est des différences qui vont du simple au double. Du coup, ils sont beaucoup plus souvent aussi au chômage, dans des problèmes spécifiques territoriaux. Mais le fait général que je signalais de la concentration dans les grandes villes, surtout les villes, ce qu'on appelait autrefois les villes de commandement, c'est-à-dire les villes où il y a des institutions universitaires ancienne, où il y a des préfectures, surtout des préfectures de région, par exemple, des industries, et aussi où il y a une vie culturelle importante. C'est là quelque chose qui est homogène sur toute la France, qui dépasse les différences régionales.
Tout à l'heure, à 7h40, Ludivine Bantini a vigoureusement défendu Nuit debout. Brice Couturier a exprimé un point de vue sensiblement différent. Vous, quelle est votre analyse de ce phénomène ? S'agit-il d'un épiphénomène ? S'agit-il d'un mouvement représentatif d'une partie de la jeunesse de France ?
Bon, c'est plus difficile à moi de me prononcer dans la mesure où une grande partie du travail que je fais est fondée sur des statistiques, sur des enquêtes assez approfondies. On a très peu d'enquêtes pour l'instant qui disent qui pratique Nuit debout. Mon sentiment est que c'est une fraction très restreinte de la population. Je dirais que c'est une sous-population qui n'est pas simplement jeune, c'est une sous-population au fond qui est plus lettrée que sa position sociale le permet. Donc là, il y a une revendication...
Des intellectuels prolétaroïdes ?
Oui, je pense que c'est un petit peu sans porter un jugement négatif sur un aspect qui paraît sympathique, mais je crois que sociologiquement, c'est une couche très particulière et qu'on ne peut absolument pas généraliser à l'ensemble de la jeunesse et même à l'ensemble de la population ce qui se passe à Nuit debout.
Ludivine Bantini.
Oui, bien sûr, j'irai tout à fait dans le sens d'Hervé Lebras sur la question de ne pas homogénéiser la jeunesse. La jeunesse n'est pas une entité, Bourdieu disait, on le sait bien, la jeunesse n'est qu'un mot. Bon, mais je voulais quand même réagir, il s'en étonnera pas, à la chronique de Brice Couturier qui, comme souvent, me fait bondir. Parce que ce que vous avez dit tout à l'heure sur la guerre des générations, l'opposition entre le budget de l'éducation nationale et le budget des retraites, un jeune entrepreneur qui, lui, est cité comme représentatif de la jeunesse et qui nous dit les jeunes qui se mobilisent, ils sont justement immobilistes, conservateurs, ils sont ringards, etc. Quelle est la représentativité de ce jeune entrepreneur par rapport à l'ensemble de la jeunesse ?
Pas plus que celle des 3000 personnes qui sont place de la République. 3000 personnes, on verra ce que donnera dans les élections, vous verrez, ces 3000-là.
Laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît. Donc il y a des centaines de milliers de personnes qui se mobilisent. Par exemple, vous opposez le budget de l'éducation nationale au budget des retraites. Et pourquoi est-ce que vous ne citez pas, par exemple, le budget de l'armée ?
Non, c'est France Stratégie qui fait. Vous devriez m'écouter tous les jours. La semaine dernière, j'ai cité France Stratégie qui a fait une analyse très poussée sur ce sujet.
Qu'est-ce que vous choisissez de relayer ? Par exemple, vous dites aussi que la révolte des jeunes, elle se focalise contre les baby-boomers. Moi, je me demande si les jeunes révoltés sont révoltés par la retraite de facteurs ou de postiers de mon père qui se trouve être un baby-boomer ou s'ils sont révoltés par les Panama Papers, par la dernière escroquerie de BNP Paribas et par, plus généralement, le fait que on est dans un monde d'une inégalité mais incroyable que...
Vous me le faites découvrir, voyez-vous.
Oui, mais le problème, c'est que là, vous pensez que l'inégalité, elle est entre, encore une fois, des baby-boomers qui sont eux-mêmes très divers sociologiquement. Encore une fois, moi, je pense que mon père qui a trimé toute sa vie comme facteur, c'est pas lui qui suscite, par sa petite retraite, la révolte des jeunes. Souvent, vous vantez le modèle allemand. Le modèle allemand, les Ein-Euro job, voilà, c'est normal. Les mini-jobs à 400 euros par mois, sans congé maladie.
Le modèle allemand, c'est 5% de chômage. chômeurs, chez nous c'est 11%.
Mais oui, mais
vous voyez,
ça fait
une certaine différence quand on arrive sur le marché du travail.
Tout ça, ce sont des chiffres. Il n'y a pas d'humanité dans votre propos. Ce sont des chiffres, ce sont des statistiques, des pourcentages. Mais la précarité, est-ce que vous savez ce que c'est de travailler dans un McDo, de travailler dans une, sur une plateforme de téléphonie?
À votre avis, j'ai payé mes études comment? Vous avez payé vos études comment?
J'ai été factrice, justement, pour
payer
mes études.
Moi, j'ai fait peinture en bâtiment.
Bon, voyez, on ne va pas opposer nos expériences. On oppose davantage des idées de
jeunesse
respectives. Pas nos expériences.
Je vais demander à Hervé Lebras, non pas de trancher ce débat, parce que à l'impossible, nul n'est tenu, mais en tout cas, Hervé Lebras, sur le fait de dire qu'il y aurait ou non une guerre des générations. En tout cas, l'idée selon laquelle les jeunes en France sont aujourd'hui dans une situation qui est globalement défavorable sur le plan socio-économique, ça, malheureusement, c'est une idée qui ne fait plus débat.
Non, pour les raisons que j'ai indiquées, parce qu'effectivement, si on s'en tient aux statistiques, comme vous dites, il devrait y avoir une opposition forte entre les jeunes et les personnes âgées. Il faut quand même, et même pas simplement elles, il faut rappeler quand même que maintenant, depuis 10 ans, le revenu moyen d'un retraité est supérieur au revenu moyen, non pas d'un jeune, bien sûr, mais d'un actif, ce qui est beaucoup plus important. Ce qui est aussi le cas en Allemagne, d'ailleurs, assez paradoxalement.
Non, mais j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, le gouvernement vient de monter de 5% les retraites.
Même chose, d'ailleurs, si on prend d'autres aspects, comme justement le chômage. De ce point de vue-là, si on compare à niveau d'éducation égale les revenus des jeunes et les revenus des plus âgés, il y a des très grandes différences, mais en fait, il y a une grande paix sociale dans la mesure, je l'ai indiqué tout à l'heure, où les liens familiaux sont extrêmement forts. La valeur familiale est plébiscitée dans les enquêtes sur les valeurs, et elle est plébiscitée parce que de plus en plus, les jeunes sont aidés par leur famille.
François Hollande a fait campagne sur la jeunesse. Je ne sais pas très bien d'ailleurs ce qu'il mettait derrière ce mot et quel type de politique il voulait mettre en place. Pourquoi cette stratégie politique? Pourquoi cette conviction qu'on peut faire campagne sur une classe d'âge, Hervé Lebras?
Oh, je crois que là-dedans, c'est à nouveau les ravages de la communication. C'est-à-dire, il y avait deux choses. Étant donné que le personnel politique français est l'un des plus vieux du monde, c'était bien de faire campagne pour la jeunesse. Ça faisait oublier d'où venait cette parole. Et puis, je crois aussi qu'il y avait une idée de Hollande qui s'est révélée radicalement fausse, qui était le contrat des générations. C'est-à-dire, voilà, on va dire, on met fin à la guerre des générations, on conclut un contrat entre elles. Chaque fois que on va pouvoir engager un jeune, on gardera une personne âgée, ils feront un binôme, mais c'est une idée qui était peut-être séduisante sur le papier, qui s'est avérée être un échec énorme, parce que par derrière, les questions de compétences sont très importantes et les différences d'éducation et de formation entre les plus jeunes et ceux qui partent à la retraite sont énormes en France.
Ludivine Bantini, votre point de vue là-dessus, le mot jeunesse lorsqu'il est utilisé par des politiques et effectivement le fait de faire campagne sur une classe d'âge, qu'est-ce que
oui,
ça suscite en vous?
C'est à la fois historiquement assez... assez banal, hein, puisque en fait il y a une sorte de mythologie et dès lors d'usage politique de la jeunesse. On peut remonter aux années 60, on peut remonter à la campagne de Valéry Giscard d'Estaing, etc., qui mettait en avant d'ailleurs sa propre jeunesse et puis qui mettait également en exergue des réformes pour les jeunes comme l'abaissement de l'âge de la majorité électorale. Je pense que c'est aussi évidemment une stratégie face à des générations, des deux jeunes générations qui sont de plus en plus désabusées, qui sont socialisés du point de vue politique avec une sorte de désarroi et de désespoir à la fois social et politique. Et puis, vous parliez, Guillaume, des politiques afférentes à ce discours. Hein. Quelles sont les politiques qui étaient proposées? Mais là aussi, ça n'avait rien d'une nouveauté. Depuis les années 1980, ce qui est proposé sont des contrats pour les jeunes, des emplois pour les jeunes. La culture de la précarité dont on parlait, c'est-à-dire une façon d'institutionnaliser au prétexte que les jeunes peuvent être flexibles, peuvent être précaires, peuvent être largement sous-payés, eh bien institutionnaliser justement ces sous-emplois, ces formes de sous-emploi, au prétexte de mieux les insérer dans la vie professionnelle, comme l'a encore rappelé Emmanuel Valls récemment. Et on voit dans la pratique que ça n'a absolument pas résolu le problème du chômage, et en particulier le problème du chômage des jeunes, ni en France, ni d'ailleurs en Europe.
Brice Couturier, votre point de vue là-dessus.
Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il y a deux jeunesses en réalité ? Il y a une jeunesse qualifiée, très qualifiée parfois, qui profite de la mondialisation et de ses opportunités, qui profite aussi de l'Europe. Beaucoup de la Commission européenne depuis des années nous dit mobilité géographique, mobilité géographique. Ben, elle commence à exister. Quand je disais tout à l'heure qu'un 500 000 de jeunes Italiens sont partis de leur pays, ils ne sont pas partis spécialement aux États-Unis ou au Canada, ils sont partis en Allemagne, ils sont partis en Suède, dans les pays où effectivement il y a un marché du travail dynamique et où pour les jeunes il y a beaucoup d'opportunités de travail. Est-ce qu'on peut pas considérer aussi qu'il y a ce problème au sein de l'Europe, entre une jeunesse qui effectivement n'a pas les qualifications requises parce qu'il y a eu un défaut des politiques à cet égard qui n'ont pas donné les qualifications nécessaires à une grande partie de la jeunesse, et puis une autre partie de la jeunesse qui est extrêmement optimiste elle, sur son avenir parce qu'elle sait que les opportunités sont là et qu'elle les prend et qu'elle les prendra de plus en plus.
Hervé Lebras.
Oui, ceci dit, le cas de la France n'est pas si éloigné du cas de l'Italie, beaucoup plus que de celui de l'Allemagne. Et notamment, pour la première fois, l'INSEE a publié en novembre des statistiques sur l'immigration, mais en comptant les migrations aussi, et pas simplement ceux qui arrivent, et en distinguant les Français des étrangers. Et qu'est-ce que l'INSEE trouve ? C'est qu'il y a un déficit annuel d'un peu près, depuis maintenant 5 ans, d'un peu près 80 000 personnes, 80 000 Français par an. Ces 80 000 Français, ça représente 10% d'une génération. Et qui sont ces 80 000 Français ? Quand on regarde les pyramides des âges qu'on arrive à obtenir, ce sont essentiellement des jeunes, et d'ailleurs plutôt des jeunes hommes que des jeunes femmes. Donc, on est un petit peu dans le cas italien, et c'est pour ça que je divergerai un peu de Brice Teinturier, c'était sur la question de,
Couturier,
des deux jeunesses.
Vous le faites à chaque fois.
Ah là, je m'étais dit, je ne le ferai pas cette fois-là. Mais...
Brice Teinturier ne répondra pas.
Bon, ils sont très différents. Donc, les jeunes, même les jeunes diplômés en France, ont du mal à... Donc, même la jeunesse qui a été bien formée ne trouve pas forcément une situation. Et de ce point de vue-là, hélas, la France est en train de ressembler à certains pays du tiers-monde où le chômage des diplômés est plus important que le chômage des non-diplômés. C'est le cas dans un pays comme le Maroc, où le chômage des non-diplômés est 2 fois plus faible que celui des diplômés.
Mais c'est pourquoi je parlais d'intellectuel prolétaroïde. Ça vous a fait sourire tout à l'heure, Ludivine Bantini, sur le fait qu'il y avait effectivement une classe d'âge qui avait été formée et qui ne trouvait pas à s'employer, ce qui est un phénomène effectivement nouveau, puisque jusqu'à présent, le diplôme protégeait de manière absolue contre le chômage.
Oui, tout à fait. Non, je pense qu'on peut absolument pas nier que l'effet de diplôme est fondamental pour distinguer plusieurs jeunesses, mais que ces jeunesses... connaissent une condition qui est similaire. Alors, intellectuel prolétaroïde, ce qui m'a fait sourire, c'est le mot prolétaroïde, mais sur le fond, je vous rejoins tout à fait, Guillaume, il y a de plus en plus, tout simplement, de difficultés à trouver un emploi à la hauteur de sa qualification. Et ce qui est frappant, là aussi, il y a des études d'économistes assez précises, je pense à Guillaume Duval, par exemple, qui le montre, c'est qu'il y a maintenant des calculs sur ce qui est appelé l'indicateur de rigidité du marché du travail. C'est-à-dire, est-ce que justement il y a de la souplesse, des exonérations de charges, la possibilité de licencier extrêmement facilement ? Et on s'aperçoit que, eu égard à cet indicateur de rigidité, les résultats, que ce soit en Irlande où cet indicateur de rigidité est faible, hein, donc grande facilité pour licencier, ou en France où il serait plutôt fort, eh bien, le taux de chômage des jeunes actifs est exactement similaire, c'est-à-dire autour de 24-25%. Donc voilà, il y a une condition commune qui traverse les jeunes, mais je pense vraiment, encore une fois, qu'il s'agit de ne pas opposer les jeunes à l'ensemble de la population et que le problème majeur n'est pas les jeunes contre les retraités. Je crois vraiment pas que le problème majeur de notre société, ça soit les retraités.
Hervé Lebras, j'aimerais conclure sur un paradoxe français, parce que tout de même, s'il est aussi dangereux, comme vous le dites, d'être jeune en France, pourquoi les Français produisent-ils autant de jeunes avec donc une démographie qui, elle, va bien ?
Et c'est peut-être la même explication que précédemment, c'est-à-dire que On dit, voilà, la démographie va bien, c'est formidable pour la France. Effectivement, on sort de presque deux siècles où on était les moins féconds d'Europe. Donc, on est content. Mais il est possible que, en fait, cette forte fécondité traduise un repli sur la famille. C'est-à-dire, les Français sont à la fois ceux qui font le plus d'enfants et ceux qui sont le plus pessimistes. Et je crois qu'ils sont pessimistes vis-à-vis de la mondialisation, vis-à-vis de l'extérieur, et que dès lors, ils se retranchent dans un espace qu'on appelait autrefois de cocooning, où cette fois-ci, ils peuvent avoir une vie beaucoup plus harmonieuse, comme à l'écart des troubles et des transformations de ce monde. C'est pour ça que je ne serais pas très optimiste sur la très forte fécondité de la France en comparaison de ses voisins.
Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat, d'avoir finalement dévoilé plusieurs visions de la jeunesse, même des visions antagonistes et du mouvement Nuit Debout. Ludivine Bantini, je rappelle le titre de vos ouvrages, vous avez co-dirigé Jeunesse oblige aux éditions des presses universitaires de France, et La France à l'heure du monde, ça c'était au Seuil. Et puis Hervé Lebras, vous avez notamment publié Le Nouvel Ordre Électoral, ça c'est dans la collection La République des Idées, et Anatomie sociale de la France, c'est chez Robert Laffont.